une fois pour toutes. Une émission proposée par la Concertation des Églises Chrétiennes de Liège.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en studio Vincent Dubois, qui est le directeur du service protestant d'éducation permanente, avec lequel nous allons découvrir diverses activités organisées par son service. Vincent Dubois, bonjour.
Bonjour.
Alors, rien qu'à évoquer le titre du service dont vous êtes le directeur, il y a déjà matière à échange, je pense. Le service protestant d'éducation permanente, qu'est-ce donc que cela ?
Eh bien, je pense que, son nom le dit, c'est un service qui est axé sur l'éducation permanente, qu'on pourrait aussi traduire en formation des adultes. L'éducation permanente est un concept qui est même défini par notre droit, par un décret de la communauté française, selon lequel il faut former des adultes à l'indépendance d'esprit, tant dans la vie professionnelle que dans la vie privée, pour pouvoir prendre les meilleures décisions et former des adultes vraiment, je dirais, acteurs de la démocratie.
Alors ici, dans le nom, il y a protestant, service protestant. Et quelle est la spécificité d'une éducation permanente protestante ?
Bien, voyez-vous, l'éducation permanente, ou comme je le disais tout à l'heure, la formation des adultes, était déjà une préoccupation des réformateurs au XVIe siècle. Alors bien entendu, dans le contexte du XVIe siècle, les choses étaient certainement très différentes. Il fallait déjà pouvoir lire pour être un bon protestant, puisqu'il fallait lire les écritures judéo-chrétiennes. Mais les choses se sont adaptées, et en général, dans les pays protestants, il y a toujours un service qui s'occupe de la formation des adultes. On peut même dire aussi que des pédagogues du XVIIIe siècle avaient déjà, en Angleterre, mis au point des pédagogies tout à fait révolutionnaires qui allaient même jusqu'à inverser les rôles du maître et des élèves, et c'était les élèves qui s'enseignaient entre eux. Donc il y a toujours eu dans le protestantisme un souci de la formation générale des adultes. Je dis bien générale, qui va bien au-delà de l'évangélisation.
Et donc le concept d'éducation permanente, qui est quand même un concept assez moderne, entre en résonance avec une vision qu'avait l'Église, et en particulier l'Église réformée dans sa vision de la formation, de l'éducation de ses ouailles à l'apprentissage de l'écriture, à la philosophie, à une compréhension des écritures.
Tout à fait. Et donc, je pourrais définir notre association, connue aussi peut-être dans le milieu protestant ou dans les milieux qui nous connaissent par le sigle SPEP, comme un service d'église. Donc, nous sommes une SBL, mais nous travaillons en étroite collaboration avec l'Église protestante unie de Belgique.
C'est un service d'église, mais c'est un service aussi qui est soutenu, subventionné par la communauté française. Alors, comment s'articule ce lien entre une dimension, une dynamique, une mission qui est ecclésiale dans une certaine mesure, et puis aussi, j'imagine, certaines attentes de la part de la communauté française?
Oui, eh bien en fait, je parlais d'éducation permanente tout à l'heure, qui est devenue une notion cristallisée par le droit, en tout cas le droit belge, et nous nous inscrivons dans le droit fil de cette conception, puisque c'est quand même de l'éducation à l'indépendance d'esprit, et donc ça peut être aussi en rapport avec l'esprit de la réforme. Nous avons donc des conférences, d'une part des conférences débat, il faut toujours qu'il y ait un débat. Ça, c'est même exigé par la communauté française, puisque le but est que les adultes se forment et apprennent à remettre en question leur position ou en former d'autres. Mais nous avons aussi des formations à la prise de parole, ou formation, là c'est une activité un peu plus spécifique à l'Église, au rouage de l'Église protestante unie de Belgique. Mais là, je ne vais peut-être pas m'étendre, parce que là c'est plus un service pour l'Église, donc à l'intérieur de l'Église.
Oui, alors je me disais, mais pour beaucoup de personnes dans notre pays, on se dit, mais ce qui a trait à l'Église, c'est la sphère privée. À la rigueur, si l'Église a besoin de faire de l'éducation, pourquoi elle n'a qu'à le faire le dimanche lors des cultes ou des choses comme ça.
Oui.
Si la communauté, oui, je vois que vous réagissez, je me fais l'avocat du diable, évidemment. Si la communauté française, quelque part, encourage la formation permanente, c'est précisément peut-être pour avoir une autre approche que celle qui serait purement... je dirais liturgique, religieuse, ecclésiale.
Oui, mais croyez-vous pas, quand on regarde les pays marqués par la réforme, la position des églises dans la société. Il n'y a pas une église protestante européenne. Il y a l'église protestante d'Allemagne, l'église, je crois que c'est maintenant, protestante des Pays-Bas, l'église luthérienne de Finlande.
Ouais.
Elles sont à côté du gouvernement et, ou de l'État. Et donc, elles peuvent prendre des positions qui ne sont jamais des positions d'autorité, puisque bon, il n'y a pas de magistère spirituel chez nous. Les églises sont des organisations de communautés, administratives certes, et ce sont là un peu les consistoires, donc des communautés locales, qui définissent les tendances théologiques d'une paroisse. Mais il n'y a pas une église qui prend des positions. Donc nous sommes à côté, les églises protestantes agissent à côté des autres acteurs de l'État.
Et quelle est la part d'indépendance dans le choix, en quelque sorte, des activités ou des sujets à traiter ou de cette éducation, de cette formation permanente des adultes? Est-ce qu'il y a des critères ou des exigences, que ce soit de la part de la communauté française ou de la part de l'Église, ou bien est-ce que vraiment c'est un petit peu en fonction de ce que l'on constate comme situation dans la société, comme besoin, comme carence?
Oui, là je voulais aussi terminer ce que je développais il y a un instant. Donc, puisque nous n'avons pas, je pense, la même position que l'Église catholique romaine, le même rôle dans la société, nous pouvons développer tous les sujets. Pour l'évangélisation ou les prédications, on se rend au temple. Mmh. Si on veut entendre des conférences ou suivre des formations plus générales, on peut se rendre dans un service. Alors pour l'indépendance du choix, nous avons un conseil d'administration, nous sommes une ASBL, mais je suis un peu la cheville ouvrière de l'association, et je choisis les sujets en fonction de l'actualité, des problèmes de société qui sont débattus actuellement. Donc ça nous permet de donner peut-être une griffe protestante à ce que nous faisons, même si les gens qui viennent à nos conférences sont en général ne sont pas protestants. Et donc on essaie d'insuffler peut-être un esprit, oui, de libre pensée. Et dans sur cet aspect-là, on s'inscrit aussi dans le droit fil du décret de la communauté française qui veut justement former des adultes autonomes.
Et quelle est la couverture géographique qui est assurée par le service?
Oui, ben, nous parlions de la communauté française, donc ça peut être toute la Belgique francophone, donc Bruxelles et la Wallonie. Il est vrai que les activités vraiment régulières toute l'année ont lieu à Bruxelles. Parce que, si on revient un peu en arrière, les activités du SPEP ont été développées d'abord par une paroisse bruxelloise, et puis on a créé le service en 94. Mais mon but est aussi de développer les activités en dehors de Bruxelles, et notamment à Liège.
Nous faisons une petite pause musicale et nous retrouvons tout de suite après. Vous écoutez RCF, la radio dans l'âme, au micro Vincent Tonon et Vincent Dubois, avec lequel nous découvrons diverses activités organisées par le service protestant d'éducation permanente de l'Église protestante unie de Belgique. Alors, nous venons de débroussailler, en quelque sorte, d'expliquer le cadre général du fonctionnement du SPEP, et nous avons bien compris qu'il y avait différents lieux, mais principalement à Bruxelles, et puis à Liège, et puis d'autres activités qui se font à gauche et à droite. Alors, peut-être que c'est le moment un petit peu d'expliquer, tiens, que se fait-il à Bruxelles? Quelles sont les activités phares, on va dire, du service protestant d'éducation permanente?
L'activité phare est les midis du SPEP, qui ont lieu tous les troisièmes mercredis du mois, pendant la pause de midi, donc de 12h15 à 14h, et qui traitent de sujets d'actualité ou de sujets de société, le plus souvent avec une dimension éthique. Mais si je dis le produit midi du SPEP est un cycle de conférences qui porte essentiellement sur des sujets de société, donc qui sont ouverts à tous. Ce ne sont pas des sujets religieux ou théologiques.
Quel est le public qui vient participer à ces rencontres?
Eh bien, je dirais que le public est rarement protestant. Mm-hmm. Quelques-uns quand même, mais...
On n'est jamais prophète dans son pays.
on réunit une vingtaine de personnes en moyenne. Là, ça dépend des sujets. L'expérience me montre que si je prends des sujets débattus ou présentés par un représentant d'un parti politique, là, on voit tout de suite...
J'imagine qu'en fonction des invités ça attire plus ou moins selon le...
Mais c'est un public forcément, oui, ouvert d'esprit, là... Mm-hmm. Ce serait bien d'attirer des personnes qui, je pense, trouveraient les débats intéressants et qui pourraient ouvrir leur esprit, mais bon, ça c'est souvent le problème quand on organise des événements, on attire quand même un peu ses semblables. La moyenne d'âge est... Bon, j'ai quelques jeunes personnes, mais il y a aussi des personnes au-delà de 60, et ça, c'est peut-être aussi les contraintes professionnelles qui vous empêchent.
Oui, j'avais dit, il faut encore avoir les possibilités de venir sur l'heure du midi.
C'est ça.
C'est quand même... Oui, et ça se tient où ?
Ça se tient dans la salle Wesley, qui est la salle attenante de la paroisse protestante d'Ixelles.
Ah oui, donc dans le quartier de la Porte de Namur.
Dans le quartier de la Porte de Namur.
Un point assez, assez central.
Oui. Et alors, l'originalité est qu'on partage sandwich et boisson après l'exposé du conférencier, et ensuite on a un échange, un débat.
Et puis après, chacun repart vaquer à ses occupations.
Oui, oui, oui. Et je dirais qu'il y a un noyau dur quand même. Depuis 2 ans que j'occupe ces fonctions, on sent qu'on pourrait dire que c'est un peu une paroisse, si on peut nous comparer aux églises, parce que ce sont des gens qui se connaissent et donc qui ont plaisir aussi à se retrouver et qui viennent indépendamment des sujets. Et puis alors, il y a, je dirais, peut-être les périphériques qui viennent en fonction du contenu des sujets ou des personnes.
Oui. Alors, il y a aussi des colloques qui sont organisés.
Oui, des colloques. Oui, il y a un colloque essentiellement par an. Le dernier avait lieu en décembre. Il portait sur la finance et l'éthique. Nous avons eu quand même...
Sujet d'actualité, s'il
oui,
en est.
Oui, oui, des orateurs bien établis dans le monde économique, plus que belge même, européen. Et les colloques se placent toujours jusqu'à présent, dans le cadre de la semaine interconvictionnelle de Bruxelles, qui est une initiative prise par l'échevine des cultes de la ville, Chantal Noël, et qui vise à faire se rassembler toutes les religions présentes dans la capitale. Et notre contribution, c'est de faire un colloque qui a lieu à l'hôtel, dans l'hôtel de ville, sur la Grand Place.
Dans un cadre on ne peut plus prestigieux, cadre. Évidemment. Donc c'est très intéressant. Alors, je me suis laissé dire aussi qu'il y avait un café théologique à Rixensart.
Oui, il y a eu un café théologique à
Rixensart. Qu'est-ce qu'un café théologique ?
Eh bien, d'abord, le café théologique de Rixensart, en tout cas, ne se passe pas dans un café. Même si l'esprit du café théologique était d'organiser des rencontres en dehors des églises, mais pour parler de sujets d'église ou sujets théologiques ou religieux ou d'éthique. Il se passait dans un café à l'origine, mais pour des raisons de logistique, il se passe maintenant dans la salle attenante du temple.
Qui est un centre culturel protestant,
si je ne m'abuse. Un centre culturel protestant, mais qui est essentiellement la paroisse de Rixensart. Et donc il a lieu tous les deuxièmes mardis du mois.
Ah oui. Alors, sur Liège. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui s'est mis en place cette année, c'est assez récent, ce sont les Amis de la pensée réformée.
Oui,
alors,
exactement.
Que sont ces Amis de la pensée réformée ?
Les Amis de la pensée réformée, oui, c'est un nom que nous avons choisi, après quelques réflexions, pour désigner un cycle de conférences. Il fallait quand même, puisque nous sommes le service protestant d'éducation permanente, que la notion de réforme ou de protestantisme y soit. Mais nous avons choisi le mot réformé pour nous inscrire dans une perspective historique. Il faut savoir que le protestantisme est multiple. Nous avons tous un socle commun, qui sont les écritures judéo-chrétiennes, et peut-être aussi le fait que les églises protestantes n'ont pas de magistère spirituel. Mais au-delà de ce socle, nous avons des conceptions parfois très différentes de la société et du monde. Donc il était utile quand même de nous positionner dans ce vaste éventail protestant. Donc nous avons choisi le mot « réformé », qui en Suisse ou en Allemagne serait bien compris. J'espère qu'il le sera ici, mais parfois, c'est vrai que, vous savez aussi, on se demande... Ce qu'on entend par réforme, s'il y a beaucoup de réformes, est un terme général, on pourrait peut-être dire réformation. Mais enfin,
en tout cas, c'est un terme qui a une touche de modernité que protestant n'a peut-être pas de la même manière.
Oui, oui, mais réformer fait quand même penser à l'histoire. L'Église réformée, bon, elle est quand même née au XVIe siècle, mais c'est aussi une manière d'attirer l'attention, parce que réformer... Quand un citoyen belge qui n'est pas de culture protestante parle du protestantisme, je ne suis pas sûr qu'il utilise souvent le mot réformé. Or, réformé, quand même, la réforme, oui, c'est une partie de l'histoire importante qui a marqué d'ailleurs notre pays. On a peut-être tendance à l'oublier, mais bon, beaucoup de Belges s'étaient convertis à la réforme, et puis il y a eu la contre-réforme.
Évidemment, en principauté, pas tout à fait, mais bon, ça c'est une spécificité liégeoise qui était principautaire, mais c'est évident. L'intention, donc, de la mise sur pied de ce groupe des Amis de la pensée réformée, c'est donc aussi de donner une certaine visibilité et une réflexion par rapport à ce qui fait la richesse, en quelque sorte, de la pensée protestante et réformée, et pas seulement de manière historique, mais aussi actuelle par rapport aux problématiques des gens aujourd'hui.
Oui, Oui, à ce sujet, je peux peut-être vous lire juste le paragraphe qui fait partie de notre brochure que nous distribuons et qui reprend bien l'esprit du projet. Donc, le SPEP a pour objectif, au travers de ces conférences, de promouvoir la formation générale des adultes en suscitant l'esprit critique. En cela, il traduit un engagement cher aux protestants, s'inscrivant dans la continuité d'un certain esprit qu'a suscité la réforme du XVIe siècle, à savoir encourager nos sociétés à s'éduquer par l'ouverture sur le monde qui les entoure, avec, et là c'est important, comme objectif ultime de former des citoyens autonomes, à même d'apprécier les différences qui font la richesse de notre monde, et en cela d'aimer son prochain sans le juger. Dans cet esprit, ces conférences s'adressent à tout public et n'ont pas pour but d'exposer ou promouvoir en soi la culture ou la foi protestante réformée.
Eh bien, c'est tout un programme. Et avant de pouvoir en parler de manière plus précise, nous faisons une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après. Vous écoutez RCF, la radio dans l'âme. Au micro, Vincent Tonon et Vincent Dubois. Nous abordons une nouvelle initiative du SPEP, les Amis de la Pensée Réformée. Alors Vincent Dubois, en octobre, donc, les Amis de la Pensée Réformée, qui se sont donc créés sur Liège, ont lancé leur cycle de conférences avec déjà deux conférences. Peut-être que vous pouvez nous dire un mot des deux premières conférences qui ont eu lieu, et puis on parlera de la prochaine qui a lieu maintenant au mois de janvier.
Oui. La première a eu lieu le vendredi 1er octobre. Avec pour thème « Franc-maçonnerie et société ». Le thème a été développé par Luc Néfontaine, docteur en philosophie de l'ULB et agrégé en sciences religieuses de l'Université catholique de Louvain.
Il y avait une raison particulière pour le thème de la franc-maçonnerie par rapport au protestantisme et à la réforme.
Nous nous sommes dit qu'il y a des liens quand même, quand on regarde l'histoire de l'Angleterre, de la franc-maçonnerie en Angleterre, il y a des liens, oui, certainement, entre la réforme et la franc-maçonnerie, ou en tout cas, il n'y a peut-être pas d'opposition. Et comme c'est un thème aussi qui est à la fois très connu et méconnu, on a pensé que c'était bien qu'il en soit débattu. Et d'ailleurs, nous avons eu beaucoup de personnes. Nous avons eu 65 personnes.
Alors, il faut peut-être expliquer où se situent ces conférences, où ont lieu ces conférences et comment ça se passe, en fait.
Elles ont lieu au café ou à la taverne Le Tchantché, rue Grande-Bêche à Liège, en Outre-Meuse. Donc, dans une salle qui a beaucoup de charme, d'ailleurs. C'est un café, quand même, le bâtiment date du XVIIIe siècle. C'est au premier étage. Et c'est une salle qui peut contenir... Ben là, à 65, la salle était bien pleine.
Il y a la conférence.
Oui, et alors l'originalité, c'est qu'on peut dîner avec le conférencier après. Donc il y a une... pour ceux qui le souhaitent, dîner avec le conférencier, évidemment...
Mais il y a quand même un moment de proximité.
Il y a un moment d'échange et d'échange plus convivial par la suite.
En plus du débat. Puisqu'il y a toujours un débat, si j'ai bien compris.
Il y a toujours un débat. Donc c'est un exposé d'une heure, échange de questions-réponses, parfois une heure également, et le repas 21h jusqu'à 23h.
Alors la deuxième conférence avait lieu avec quel sujet ?
La deuxième conférence était le 5 novembre, la gestion de l'environnement dans le cadre des télécommunications. Plus précisément, essentiellement les antennes des téléphones portables, les antennes GSM, avec Théo Bruyère, qui est un des fondateurs du parti écolo, et qui est aussi le président du collectif de lutte antennes GSM.
Et elle avait
un choix à la ville de Liège.
Elle avait attiré aussi un public...
Peut-être un peu moins que la franc-maçonnerie, mais bon, le sujet de la franc-maçonnerie est peut-être plus énigmatique. Et je crois que parfois, les personnes n'aiment pas entendre parler des effets néfastes.
des antennes téléphoniques.
Mais il y avait un certain public quand même.
En fait, on voit quand même que selon les sujets, on touche un public certain. Ou un autre. Et c'est ça qui montre aussi une grande ouverture par rapport aux conférences que vous proposez.
Oui.
Puisque finalement, ça touche un petit peu à tous les domaines et on peut toucher un public très éclectique, enfin.
Tout à fait. Oui. Alors, c'est le long terme qui nous dira, parce que là, c'est un nouveau projet, donc on ne peut pas encore dire quel sera le noyau dur ou comment ça se développera, mais pour les deux conférences, je suis très content.
Mais comme nous sommes d'un naturel optimiste, donc il n'y a pas de raison. Alors, là, il y a une prochaine conférence qui est là, en train de se préparer maintenant, qui aura lieu en début janvier. Peut-être que c'est le moment, mi-janvier, de nous en toucher un mot.
Oui, alors vendredi 14 janvier, donc toujours à la même heure, donc 19h30, conférence, 21h, le dîner. Nous recevrons Pierre Veriens, docteur en sciences politiques et chargé de cours à l'Université de Liège, qui développera le thème des affrontements, ça c'est le titre de sa conférence, les affrontements mimétiques dans le conflit communautaire belge. Alors, vu le contexte, nous espérons quand même avoir une bonne assemblée ce jour-là.
Oui, donc quand on pense évidemment à la dimension formation des adultes, là ce sont vraiment des sujets en phase étroite avec le vécu des citoyens au quotidien, dans leurs différentes préoccupations ou sujets d'intérêt. Donc vraiment c'est un sujet important, on ne peut que recommander. Et puis je crois qu'il y a déjà une autre conférence qui est prévue alors pour le mois de mars.
C'est ça, oui, notre agenda comportait 4 conférences, c'est un peu l'optique que nous avons choisie. Et le 11 mars, nous aurons Pierre Sommeville, docteur en philosophie et professeur émérite et ancien doyen de la faculté de philosophie et lettres de l'Université de Liège, qui parlera du marché de l'art, des soubassements et du marché de l'art.
Donc, sujet important aussi. Eh bien, j'espère que ce sera le mot de la fin. J'espère que nos auditeurs auront de la curiosité et envie d'aller assister aux différentes organisations, aux différentes conférences. Je ne doute pas que RCF fera de la promotion de ces conférences en les rappelant à l'antenne. Eh bien, amis auditeurs, je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt pour, je l'espère, un nouveau moment en votre compagnie. Je vous souhaite aussi une excellente année.